Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Forum de la presse d'aujourd'hui, le rendez-vous des confrères journalistes, débat de trois sujets. Comme d'habitude, la pré-signature du 20 juin et la mise en place du comité de suivi. Nous allons également voir le calendrier prévu pour la mise en œuvre donc de l'accord de paix signé par la CMA et le parachèvement donc intervenu ce 20 juin, samedi dernier. Donc, Lanfi Assinaba, journaliste indépendant. Pendant Ami Bessissé de la radio RFM et Diakar Diayossi sont les journalistes invités à cette émission et nous allons voir dans la troisième et dernière partie la prestation des aigles à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande qui s'est déroulée et dont le Mali a terminé troisième. Merci de nous être fidèles. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique.
Studio Tamani.
À peine signé, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali connaît ses premières péripéties. La mise en œuvre du comité de suivi de l'accord crée des tensions entre les mouvements armés rivaux. Le vent de discorde dans les rangs du MNLA est-il un facteur handicapant de la mise en œuvre de l'accord du 20 juin? La question reste posée. Une branche du mouvement rejette le document depuis sa signature. D'après les dispositions de l'accord, le comité de suivi doit être composé du gouvernement, des mouvements signataires et de la médiation internationale. Aucune précision n'est cependant donnée quant aux modalités de répartition des sièges. Déjà la plateforme met la médiation en garde contre le déséquilibre donc lors de la représentation des entités au sein du comité de suivi. La présidence du comité et son secrétariat permanent pose également problème aux groupes armés. Alors, la FIA, le pari donc de Ami Bessissé est gagné. La première question s'adresse à vous. Aujourd'hui, que faut-il attendre après cette signature du 20 juin?
La mise en œuvre. Il faut s'attendre à la mise en œuvre de l'accord. Ça, c'est la première des choses. C'est de donner les moyens pour qu'on puisse aller à cela.
Voilà. Et comment vous voyez cette mise en œuvre? Avec les dissensions aujourd'hui au sein du MNLA et les tensions qui existent entre certains groupes rivaux.
Bon, en ce qui concerne les dissensions du côté du MNLA, je vois en cela deux aspects. D'abord, j'analyse cela comme étant une éventuelle possibilité, un coup de bluff. Parce que c'est des gens qui sont forts en communication, une manière de prouver que le document il ne répond pas 100% à leur aspiration
d'autonomie.
Ou encore tout simplement c'est réel, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Cette dissidence elle existe et si tel est le cas, je pense que ça mérite d'être pris au sérieux dans la mesure où quand on regarde l'évolution de la crise, on se rend compte que ce sont ces véritables récalcitrants qui sont à la base de la contestation en 2012, la branche dirigée par les Moussa Gassari de Moussa Gattaer. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux et de faire tout pour qu'on puisse les ramener dans ces conditions-là à la phase de mise en œuvre.
D'accord. Alors, Diakar Diayossi aussi, quel est votre avis par rapport à ces dissensions au sein du MNLA et également pour la mise en œuvre?
Bon, pour la mise en œuvre, moi je pense qu'il appartiendra à toutes les parties concernées, n'est-ce pas, de faire preuve non seulement de bonne foi, mais surtout de responsabilité. Et à ce niveau, la communauté internationale est fortement interpellée. Parce que du début des négociations jusqu'à la signature de l'accord le 20 juin, c'est cette communauté internationale-là qui a joué le rôle de garant, n'est-ce pas, de tout ce qui va concerner ce processus. Maintenant, pour ce qui concerne la dissidence, l'Anfia l'a dit, c'est vrai qu'il faut la prendre très au sérieux, mais Moussa Agassari, il est en train de jouer, n'est-ce pas, son dernier va-tout. Par cette dissidence, il prouve que de tout temps, les préoccupations des populations n'ont jamais été l'objet, n'est-ce pas, de cette rébellion.
Alors, Moussa Agassarid, qui est installé donc en Europe et qui parle au nom des populations donc de cette zone.
Moi, je pense que...
Quel est le paradoxe?
Concernant Moussa Agassarid, moi, j'interpelle surtout la France. D'abord, il n'est un secret pour personne que même le MNLA même n'est pas représentatif de toutes les populations du Nord, à plus forte raison Moussa Agassarid. Aujourd'hui, il joue son combat personnel. Il ne vise que ses propres intérêts et il appartient à la France, n'est-ce pas, qui l'héberge, je le dis comme ça, il a un passeport français, il appartient à la France de lui faire entendre raison parce que à un moment donné, n'est-ce pas, il faut savoir mettre fin aux différentes tergiversations pour faire face à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le retour de la paix pour faire face, n'est-ce pas, au développement du Mali et particulièrement des régions du Nord.
Merci, Diakaridia Yossi, journaliste indépendant. Alors, Amin Bessissé, de la radio RFM, votre avis sur la mise en œuvre et cette dissension au sein du MNLA?
Merci. D'accord, permettez-moi de souhaiter un très bon mois de carême à tous les Maliens en émo. Je ne suis pas aussi loin de mes confrères.
Vous avez vu la lune aujourd'hui?
Non.
Allez-y.
Je ne suis pas loin de ce que viennent de dire mes confrères. En réalité, cette dissidence dont on parle, moi je crois qu'elle est réelle. Parce que ceux qui sont en train aujourd'hui de roupester n'ont pas fait le déplacement. Donc cela veut dire que c'est des gens qu'il faut prendre au sérieux. Parce que s'ils l'avaient vraiment voulu, ils seraient là parmi les autres pour montrer vraiment leur adhésion, quel que soit le caractère qu'on peut en donner à cela. Maintenant, par rapport à ceux-là même qui ont signé le document, vous avez entendu Jerry Meiga, dans ce qu'il dit, on sent que c'est des gens qui tiennent encore à leur azawad. Quelque chose qui va être difficile et compliqué à faire. Soit l'État va le faire, les populations vont se révolter, ou bien l'État va refuser, ils prendront les armes. De toutes les façons, devant la communauté internationale, il a tenu ses discours, les gens ont applaudi. Moi, je crois que c'est l'État, c'est la communauté internationale qui ont légitimé cet azawad. Et c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir le sortir de ce document que tout le monde applaudit. Même si ce n'est pas des demain, quand même, on se réjouit parce que la population va être apaisée. Je crois que Moussa Agassarid aussi, comme on le dit, c'est quand même, quoi qu'on dise, un pion du MNLA. Les trois Moussa, moi je ne dirais même pas lui, Ashura Toumane, Moussa Agassarid et Moussa Agataher, c'est des gens qui ont...
Ashura Toumane est de l'autre côté, lui il a été clair.
Justement, mais c'est des gens, moi je les mets toujours dans la même corbeille, ils peuvent être dissidents à ce niveau. Et quand on écoute même Ambéry, on voit que vraiment c'est compliqué, il faut prendre cette histoire au sérieux. Ce n'est pas réglé, bien que le document soit signé.
Alors, l'absence de Bilal Al-Sherif, même si les représentants que nous avons reçus ici au studio Tamani disent que tous les MNLA parlent d'une même voix. Est-ce que l'absence de Bilal Al-Sherif lors de la signature, lors du parachèvement de cet accord le 20 juin dernier, est un signal de désaccord également?
Je ne pense pas, parce qu'il serait très facile de dire que c'est un signal de désaccord dans la mesure où tout le monde ne peut pas être présent. Ça, on est d'accord avec cela. Il peut ne pas être à Bamako et être d'accord. Autrement dit, on ne doit pas expliquer toute absence par le rejet. Maintenant, je ne suis pas dans leur agenda, mais si réellement il n'était pas pour, je pense qu'il allait se désengager, expliquer sa position comme l'ont fait les Moussa Agassarid et Moussa Agataher. Je pense bien que nous devons à ce niveau être très 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 prudents pour ne pas expliquer toute absence par le rejet, parce que ça a été le cas avec Moussa Agassara Toumane, d'après les informations que j'ai reçues auprès d'un confrère. Et par la suite, il y a le responsable même de sa communauté qui est revenu sur l'information comme quoi son absence ne justifie nullement son rejet par rapport au document. Donc je pense que c'est très important de
relativiser.
D'accord. Maintenant, monsieur, le confrère Sissé a parlé de quelque chose. Il dit que l'accord, on l'a applaudi, même si ce n'est pas les deux mêmes. C'est vrai, c'est applaudi, mais je pense qu'à ce niveau, c'est très important qu'on explique quelque chose aux Maliens. Dans le discours officiel, ça ne ressort pas très souvent. L'accord qui a été signé le 15 mai, on se rend compte que si la CMA a accepté de signer ce même document, c'est parce qu'il y a un autre document qui a été signé. Et le citoyen lambda, malheureusement, n'a pas connaissance
de ce contenu.
Et c'est très important pour que dans l'avenir, on ne puisse pas parler de trahison. que le peuple ne puisse pas dire voilà, les dirigeants nous ont trahis. Il faudrait que dès maintenant qu'on commence à expliquer cela, et là, les gens de la CIMA ont commencé ce processus d'explication. Parce que quand on analyse les propos tenus par Mohamed Djeri au cours d'une interview exclusive qu'il a accordée à l'hebdomadaire Journal du Mali, on se rend compte que ce n'est ni plus ni moins que les doléances qui ont été formulées le 17 mars lorsque la MINUSMA est allée rencontrer les gens de la CMA à Kidal. Et c'est pratiquement les mêmes éléments qu'on retrouve dans le document qui a été signé le 5 juin. Donc il serait bon qu'on explique cela aux Maliens, que l'accord qui a été signé, s'il a été signé, c'est parce qu'il y a eu des amendements. Et les 90% d'après Mohamed Djeri de ces doléances-là ont été prises en compte. Voilà pourquoi ils ont signé. Il serait bon qu'on explique tout cela au peuple malien.
D'accord. Alors, nous allons voir avec vous, Diakaré Diaye aussi. Est-ce que, avec cette signature et la programmation donc de la mise en œuvre, on peut dire aujourd'hui que c'est la fin du terrorisme?
Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que... Selon les circonstances, on sait que les groupes armés là, selon les circonstances, ils s'appellent MNLA, HCIA, MAA, Ansardine, et j'exagère en disant souvent ACME et Mougéo. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais avant de venir à ce niveau, moi, j'aimerais bien revenir sur l'absence de Bilal Hachérif. Son absence ne peut pas être une entorse, n'est-ce pas, à l'avancée du processus. Pourquoi? Parce que de tout temps, il a été quand même le leader incontesté du MNLA. Et Djeri Maïga, si je dois caricaturer, c'est la bouche et les oreilles de Bilal Hachérif. Donc quand Djeri est là, ça veut dire qu'il est venu avec la caution, n'est-ce pas, de Bilal Hachérif. Donc son absence n'entache nullement l'avancée du processus. Donc pour en venir à ta question, la signature du 20 juin peut faciliter la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il est très difficile souvent de faire le distinguo entre les groupes armés et les terroristes. C'est pourquoi la communauté internationale a fait, n'est-ce pas, une pression terrible sur la CEMA pour qu'elle signe, afin qu'on sache désormais qui est rebelle, qui est terroriste. Donc la signature est un pas, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement c'est la fin du terrorisme. Je pense que c'est maintenant qu'on peut commencer même la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali.
D'accord.
La fin. Un tout peu rigoler avant cette émission, il y a un confrère qui disait, mais bizarrement, depuis qu'on a annoncé la signature du 20 jusqu'à maintenant, et aucune attaque. Bon, il dit que ça. Il invite les gens à réfléchir par rapport à ça. Voilà.
Alors, Amimbe Cissé, cette question du terrorisme, comment est-ce que vous la définissez?
Difficile de pouvoir expliquer lorsqu'on n'est pas vraiment acteur de ce qui se passe. On sait que le Mali, pratiquement, est à marge de cette lutte contre le terrorisme. La France, et puis voilà, disons, la France et tous ses secrets, on ne peut pas très bien comprendre. Mais il faut reconnaître que ces mouvements qui ont signé aujourd'hui ne sont pas moins que les terroristes dont on parle. On connaît leurs accointances de tout le temps, la façon dont ils ont toujours agi. Quelqu'un le disait, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais ce que moi je soulève surtout aujourd'hui, ça va être compliqué avec cette armée dont on parle. L'armée ne pourra pas faire cette lutte.
Une armée qu'on qualifie de reconstituée.
Une armée en reconstruction, ça c'est et surtout une armée qui ne pourra pas aller partout, même si l'accord le dit. Quand on écoute aujourd'hui Djeri qui dit qu'il faut que l'Azawad soit défendu par les forces de l'Azawad, il s'agit toujours de ces mêmes gens à qui on va donner des armes, à qui on va confier des secrets et qui par la suite peuvent aller à tout moment trahir le peuple. Donc c'est très embarrassant, c'est très très difficile de pouvoir faire cette guerre. Le Mali, il va encore falloir qu'il y ait du temps, parce que la communauté internationale, la même fois répété, elle ne va pas faire la guerre à la place de tout le monde, bien que ce soit un phénomène international. Mais on peut peut-être espérer, comme l'a dit tout de suite
la FIA,
voilà, donc on peut espérer au cas où.
D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, vos commentaires et vos réactions sont donc les bienvenus sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, mais sans oublier cette émission qui sera donc mise en ligne à travers donc YouTube. Vous pourrez donc revoir la vidéo de cette émission et réagir si vous voulez. N'oubliez surtout pas notre site web également, www.studiotamani en un seul mot.org. Alors nous allons voir la deuxième partie, la seconde partie qui parle donc du calendrier. Mais avant de toucher à cette question de calendrier, nous allons permettre à l'AFIA de réagir à cette question du terrorisme. Donc, est-ce la fin du terrorisme? Vous avez touché deux mots, mais je vous relance sur cette question. Est-ce que c'est la fin du terrorisme avec cette signature du 20 juin?
Je ne pense pas que cette cérémonie du 20 juin soit la fin du terrorisme. Mais ça permettra, ça aura l'avantage, le mérite de focaliser toutes les attentions aujourd'hui sur la lutte contre le terrorisme. Parce qu'on suppose qu'aujourd'hui, avec cette signature, on a fait une délimitation, les forces du mal et les aspects positifs. Donc je pense que ce n'est pas la fin du terrorisme, mais ça permettra de pouvoir faire face efficacement à la lutte contre le terrorisme, de concentrer, de focaliser toutes les attentions sur cette lutte-là.
Amin Bessi, si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y.
Oui, justement, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les pays qui ont beaucoup plus aidé le Mali ont aussi aujourd'hui les difficultés. Quand vous voyez le Tchad, quand vous voyez la France, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, même si les puissances aujourd'hui se mettaient ensemble, combattre les terroristes un peu partout au monde commence à devenir une équation difficile à résoudre. Mais comme il l'a dit, ce ne sera pas d'un seul coup. Il va falloir que même la population civile s'investisse dans cette histoire parce que les terroristes, c'est des gens qui sont souvent camouflés parmi nous-mêmes. Donc je crois que il va falloir que même les populations à la base soient initiées dans cette lutte contre le terrorisme, comme aux États-Unis où voilà, il y a des mesures quand même élémentaires qui permettent aux citoyens d'identifier et puis d'alerter.
D'accord. Alors, cette deuxième partie qui est donc consacrée au calendrier de mise en œuvre de l'accord, un bref aperçu des missions du comité, l'intégration des ex-combattants sous 90 jours, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sous 60 jours, sans oublier le redéploiement des forces armées de défense et de sécurité en 60 jours, la mise en place d'une police territoriale dans les 12 mois. Alors, le décompte donc de ces dates a commencé depuis le 20 juin dernier. Dakaria aussi, est-ce que le calendrier de mise en œuvre de cet accord qui est de 12 mois est convenable?
Je ne crois pas, mais c'est en fait indicatif. C'est indicatif. Sinon, arithmétiquement, je ne crois pas. Pour qui connaît le fossé dans lequel les régions nord du Mali, principalement Kidal, n'est-ce pas, ont été mises. Et vous avez tantôt parlé, n'est-ce pas, des enchères de la plateforme. Qui menaçait vraiment de si on faisait la part belle à la CEMA. Je crois que sans soutenir la plateforme, je pense qu'à ce niveau, il va falloir que le gouvernement malien soit extrêmement vigilant. Parce que lors de la signature, le président l'a dit, il dit qu'il était ivre de joie ou de bonheur, je ne sais pas. Dans cette euphorie, il ne faut pas vraiment laisser prendre les choses à la légère. Ça va être très grave parce que c'est l'avenir du Mali, c'est vraiment l'avenir du Mali, l'existence même du Mali qui est en jeu. Donc à ce niveau, je crois que le gouvernement doit être extrêmement vigilant pour ne pas prendre les choses à la légère.
Alors 12 mois pour mettre tout ça en place et déjà des jours cités pour tel ou tel aspect à Mbécissé.
Non, moi je crois qu'on ne va pas appliquer à la lettre ce qui est dit parce que ça va être très compliqué et les amis de la CMA et puis de la plateforme comprendront. Maintenant, on sait que la CMA, peut-être il n'a pas voulu le dire, la CMA a vraiment eu la part belle dans cette histoire, qu'on le dise ou pas. Aujourd'hui, c'est ce qui peut frustrer parce que psychologiquement et puis intérieurement, il y a cette rivalité qu'on ne peut jamais enlever entre la CMA et la plateforme. Parce que vous avez vu, pour qu'ils viennent signer, ils ont exigé le fait qu'ils se retirent.
Le retrait de la plateforme de Meneka.
Déjà, ça montre une victoire diplomatique, ou bien c'est pas une victoire d'une manière ou d'une autre de la CMA sur la plateforme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit tout un État qui revient reprendre toute une cérémonie que vous avez déjà organisée depuis le 15 mai à cause de quelques individus. On revient sur tout et comme pour dire que ce jour n'a pas de pareil au Mali, comme si vous avez, comme si le président a nettoyé ce qui s'est passé le 15 mai. Je crois que la CMA, diplomatiquement on peut le dire, a fait vraiment tomber le Mali et là il faut qu'on se relève aussi rapidement qu'il faut maintenant que cet accord est signé.
Alors calendrier, un mot sur
je rebondisse un peu sur ce que vient de dire Ami. En fait le retrait de la plateforme de Menaka ne constitue pas forcément une victoire diplomatique ou une victoire quelconque de la CMA sur la plateforme. Parce que quand vous regardez, moi je dirais même que la reprise de Menaka par la plateforme restera à jamais un échec pour la CMA. Pour qui connaît l'histoire des rébellions, elles ont toutes commencé par Menaka. Et je crois que depuis les récents événements, c'est la première fois, n'est-ce pas, que la CMA enregistre un cuisant échec, et quelles que soient les conditions dans lesquelles la plateforme se retire, parce que c'est important, la plateforme s'est retirée à la suite de la signature d'un accord. Autrement dit, le gouvernement malien a tordu la main à la plateforme pour qu'elle se retire. Autrement dit, elle serait restée et la CMA ne serait jamais rentrée.
Je
voudrais aborder dans le même sens que Jakar Diayossi. Je pense qu'on doit avoir en ce retrait un aspect positif, comme on le dit, le fait que la plateforme s'est retirée de Menaka, comme on le dit, on doit positiver, parce que la plateforme doit se dire que c'est grâce à elle que la CMA a quitté Menaka.
Que le Mali a retrouvé la main.
Oui, une localité qu'elle occupait depuis les événements de mai 2014. Et quand elle a cherché la CMA, il a fallu qu'il y ait des interventions pour que la plateforme sorte. Et cette fois-ci, c'est une force censée être neutre qui occupe Menaka. Et je pense que c'est l'occasion plus que jamais pour la MINUSMA aussi de prouver sa bonne foi, sa neutralité, une neutralité qui a été mise à bien des égards, de prouver vraiment qu'elle est neutre et de jouer le rôle qu'il faut. Donc je pense que l'arrivée, le retrait de la plateforme de Menaka, il faut voir en cela aussi quelque chose de positif. Parce qu'au moins grâce à cela...
Les femmes font la patrouille là-bas.
Oui. Et il y a autre chose qu'on ne dit pas très souvent,
c'est
que l'analyse du point de vue financier laisse apparaître qu'il y a au moins deux conditions qui sont réunies pour que le gouvernement aussi puisse être favorable à ce retrait-là aussi.
Alors,
non, je ne suis pas du tout d'accord avec mes confrères sur ce point.
Allez-y.
Parce que lorsque j'explique, c'est très clair ce que moi je disais tout de suite. La CMA et puis la plateforme, on sait les conditions dans lesquelles ils ont été chassés de Menaka. Mais cette fois-ci, ils avaient vraiment l'intention de reprendre les hostilités, même si peut-être ils n'allaient pas réussir à parvenir. Mais on a vu que ce problème a créé une véritable tension entre Chérif Ousmane Madane Haïdara et le président de la République, parce qu'il a voulu vraiment rencontrer le président, parce que le Gatcha ne voulait pas quitter. Il ne voulait, c'est Haïdara qui leur a dit laisser cette zone-là.
Alors, qui est Chérif Madane Haïdara, leader religieux de son État,
voilà.
Demandé, selon vous?
Bien sûr, il l'a dit. Il a tout fait pour rencontrer. Moi, je pense que le président aurait dû le rencontrer, même s'il n'allait pas faire ce qu'il lui dirait. Il fallait quand même le rencontrer parce que...
Il l'a reçu hier ou avant-hier.
Mais c'est trop tard. Maintenant que... C'est ce que j'ai dit. C'est des choses qui... Cela veut dire que ça montre que c'était vraiment sérieux et que si... Ça ne s'était pas passé, la CMA n'allait jamais signer. Cela veut dire que c'était une condition essentielle. Et si ce n'est pas par les armes, il fallait le faire d'une autre manière. Donc,
peut-être qu'on ne se comprend pas. On essaie d'expliquer l'autre aspect de la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas totalement rejeter le fait que la plateforme a quitté Menaka. Quelque part, ça a des retombées. Parce qu'au moins, c'est grâce à la plateforme que la CMA a quitté Menaka par la force. Même si au début, c'était par des histoires de sensibilisation qu'il y a eu des affrontements. Au moins, c'est grâce à cette intervention de la plateforme que la CMA a quitté Menaka. Et aujourd'hui, la plateforme, elle n'est pas à Menaka, tout comme la CMA, mais c'est la MINUSMA qui va assurer cette fois-ci la sécurité. Il y a aussi les forces armées maliennes qui sont à Ménaka. Donc je pense que c'est, quand je parle d'aspect positif, c'est par rapport à cela. Donc il ne faudrait pas voir en cela quelque chose de négatif dans l'ensemble.
Je sais que c'est comme ça que la CMA interpréterait cela. Et moi, je suis sûr et certain que cette rivalité, ça ne s'éteindra pas. Non.
Cher confrère,
on boucle cette partie.
En fait, ce n'est pas parce que la CMA l'interprète comme ça que nous devons le comprendre ainsi forcément. Hein? Et une chose est sûre, avant cette dernière intervention, les forces armées maliennes étaient présentes à Ménaka, mais elles étaient cantonnées, elles étaient quasiment en prison. Et c'est grâce au retrait de la plateforme aujourd'hui que non seulement la CMA est partie, mais que les FAMA, aujourd'hui, ce sont les forces armées maliennes qui assurent la sécurité des personnes et de leurs biens dans Ménaka.
D'accord.
Et je pense que ça, c'est un point positif, mon cher.
D'accord. Alors, nous allons toujours revenir sur les dates prévues donc pour la mise en œuvre de ces différents aspects, notamment le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Aujourd'hui, la FIA, nous avons vu lors de l'accord de Ouagadougou, il y avait un deadline également qui avait été annoncé 60 jours après donc la signature des négociations devait s'enclencher. Aujourd'hui, on parle de 60 jours, de 90 jours pour la mise en œuvre et pour la pratique de certains aspects. Est-ce que vous pensez que ces dates-là également, ces deadlines vont être respectées?
Ça dépend.
Même si c'est à titre indicatif.
Ça dépend. Je me rappelle, par rapport à l'accord de Ouagadougou, il était prévu le cantonnement. La MINUSMA avait même commencé à identifier des zones de cantonnement, tout. Mais l'argent qui avait été prévu, je ne sais pas quel...
L'argent avait été acquis. On parlait de 3 millions de dollars.
De dollars. Mais on ne sait pas si le fonds a été mobilisé ou pas. En tout cas, il y a eu un échec. Ça a été un échec à ce niveau. Je ne sais pas si on doit appeler cela échec. Parce que, en tout cas, on s'attendait à ce qu'il y ait ce cantonnement. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Donc, si à ce niveau, il n'y a pas d'amélioration, je pense que c'est l'occasion de réfléchir, voir les voies et moyens qu'il faut pour qu'on puisse aller à cela. Parce que sans cela, ça va être très difficile. Il faudrait les identifier, les combattants, les cantonner, les désarmer et procéder à leur insertion. C'est impréalable. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, il faut en créer.
Alors aujourd'hui, quel peut être le visage, le nouveau visage de l'armée malienne avec ses combattants? Est-il possible de les intégrer dans l'armée?
Bon, on avait dit en un premier temps qu'il y aura intégration, mais que ça se fera au cas par cas. Bon, maintenant, avec le dernier document qui a été signé, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas accès à tout le contenu. Je ne sais pas ce qui a été décidé au final. Sinon, il était prévu de procéder à des recrutements, la réintégration au cas par cas. En tout cas, ce que les autorités maliennes avaient dit à l'époque.
D'accord.
Maintenant, on ne sait pas si cela est toujours d'actualité.
Alors, une armée reconstituée, composée de combattants rebelles et de soldats. Comment est-ce que ce commandement, quelle peut être l'ossature de ce commandement d'une telle armée, Diakardiaï aussi?
Famoussa, moi j'ai bien peur. Et je suis très pessimiste. Je suis très très pessimiste parce que quand vous regardez, je me noie souvent dans la terminologie, les intégrés rebelles ou les rebelles intégrés, chaque fois que les rébellions sont parties, l'écrasante majorité des anciens combattants qui avaient été réintégrés dans l'armée malienne ont été les premiers déserteurs. Alors, je ne sais pas le travail pédagogique ou psychologique que les instructeurs vont être amenés à faire pour que les militaires maliens puissent accepter en leur sein les gens qui, hier ou avant-hier, ont tiré sur eux. Parce que certains se connaissent. Certains se connaissent. Bon, s'il faut qu'ils retournent dans la même unité, dans une même caserne, moi j'ai bien peur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ces ex-combattants, mais sans être expert en question militaire, j'aurais bien aimé que ces gens-là, que ces ex-combattants-là soient insérés autrement dans le tissu économique, en tout cas autrement
que dans
l'armée. J'ai bien peur que la collaboration ne marche.
À Ouagadougou, il a été question de cela, c'est-à-dire de démobilisation, désarmement, réinsertion. Mais brusquement comme ça, lorsque l'accord préliminaire était en vigueur, brusquement, je ne sais pas par quelle magie, les autorités même ont fait surgir au lieu de réinsertion, on parle maintenant de réintégration, mais de cas par cas. Bon. Suite à des pressions, on ne parle plus aujourd'hui de cas par cas, on parle de plein de choses. Bon, vraiment, ça amène de confusion quelque part.
Et
ça fait peur. Mais je pense que pour la paix, on va prendre ce risque-là de nous embarquer.
Comme le président l'a dit, tout est négociable sauf l'intégrité territoriale du Mali.
Bien, vous savez, ce n'est pas une première fois ce qui est en train de se jouer. Moi, je crois que Amadou Toumani Touré, c'est par là d'ailleurs qu'il est tombé, parce qu'il a été très très affable avec ses groupes armés. Il les a insérés un peu partout, dans tous les secteurs, dans presque toutes les institutions. Mais ce que l'accord dit, que la CMA a signé dans les arrangements sécuritaires et puis dans pratiquement tout, on dit que 80%, ça c'est un. Et deuxièmement, aujourd'hui, on nous dit que ceux qui ne veulent pas être réinsérés, qui ne veulent pas être réintégrés, c'est des gens à qui on va donner de l'argent. Ils iront faire ce qu'ils vont. Ça crée automatiquement de l'injustice parce que tous les Maliens sont libres et égaux. Lorsque vous prenez ces gens parce qu'ils ont pris les armes...
Pas si on est en armes.
Oui, mais justement, c'est parce qu'ils ont pris les armes. Et si demain, de l'autre côté, quelqu'un, une autre ethnie ou bien, comment on appelle ça, d'autres individus prennent les armes, ça veut dire qu'on se croirait aux États-Unis, où chacun a son arme pour défendre peut-être une partie de la patrie.
Moi, je pense qu'à ce niveau, vous voyez l'esprit de la pratique à ce
niveau. Nous allons marquer une pause et nous reprendrons le cours de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, les réactions sont les bienvenues sur les réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Aujourd'hui, le Grand Dialogue n'est pas totalement comme un Grand Dialogue, mais c'est le Forum de la presse qui débat de trois sujets et ayant meublé l'actualité de la semaine. Nous sommes sur le troisième point, mais juste avant d'entamer cette troisième partie, nous allons boucler la deuxième partie qui parle du calendrier de mise en œuvre de l'accord de paix parachevé donc le 20 juin dernier. Amibé Cissé, vous aviez la parole.
Voilà, je disais que ça va être de l'injustice de prendre aujourd'hui la majorité des combattants de la CMA et à qui on va confier la sécurité pratiquement du Nord, même si ce n'est pas ce que l'État va faire, c'est ce que les groupes armés se sont mis en tête et dans la réintégration, c'est à eux qu'on est en train de donner le plus grand quota, on parle de 80%. Aujourd'hui, on n'est plus finir. On n'est plus aujourd'hui dans une armée républicaine. Une armée républicaine, c'est une armée qui défend le territoire national. Et aujourd'hui, on parle de police territoriale. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que chaque groupe d'hommes va défendre un territoire bien précis. Et ça, ce n'est pas du tout malien, ce n'est pas du tout national. Il va falloir qu'on retrouve la formule de créer une armée républicaine capable de défendre le territoire.
Ah, mais si. Avant de donner la parole à la FIA. Tout le monde devient MBCC à mes yeux. Alors, Djagardia aussi, allez-y.
Voilà, donc toujours par rapport à la réintégration des ex-combattants, je crois que déjà des chiffres ont été avancés. On parle de 9000 combattants. C'est énorme. Il va falloir chercher des ressources pour leur entretien. Et au-delà de ces 9000 combattants, on dit que sur lesquels il y a déjà 200 colonels. Et la CMA dit que dans ces rangs, il n'y a pas d'hommes de rang. Ils sont tous officiers, au moins lieutenants. Imaginez la frustration que cela peut créer parce que dans l'armée régulière...
Sans parler de la plateforme.
Voilà, justement. On peut être recruté dans les règles de l'art, avoir un niveau d'instruction acceptable et passer toute sa vie sans pouvoir être officier, sous-officier supérieur même. Donc s'il faut qu'au bout de 2 ans, des gens commencent par le grade de colonel, moi j'ai peur.
La FIA.
Oui, effectivement, ça fait peur. Mais comme je l'ai dit, on a voulu la paix.
Mais pas à tous les prix. Pas à n'importe quel prix, la paix.
Justement, dès le début, c'est ce qu'on devrait dire. Mais malheureusement, les débats ont faussé quelque part. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas parce que je soutiens, mais je parle en termes de pragmatisme. Aujourd'hui, si on refuse cela, du moment où les autorités ont accepté, on va revenir à la
case. De tout négocier.
De tout négocier. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, au contraire, je suis contre.
On a déjà assisté à des situations pareilles. Vous croyez que ça va résoudre le problème encore?
Ah, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ok, dites-nous si ça va résoudre le problème parce qu'on a déjà assisté à des situations comme ça. D'ailleurs, mieux que ça. Ici, aujourd'hui, on revient dans le même problème, on amène la même solution. Peut-être que le prochain président va aussi être confronté à la même difficulté.
On a 10 minutes pour jouer au foot. Le sujet, le dernier sujet.
C'est regrettable, vraiment. C'est regrettable.
Qu'on arrive à terme de ce volet.
Oui, de ce volet, vraiment.
La prestation des Aigles à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans, Coupe du Monde junior donc. Alors, que faut-il donc attendre de ces Aiglons qui ont donc terminé troisième de cette compétition après 99 avec la génération des Seydou Keïta? Les Aiglons du Mali ont remporté samedi dernier la troisième place de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en battant le Sénégal 3-1. Quel avenir pour ces Aiglons, Diakhar Diaye aussi?
Bon, d'abord, je salue cette troisième place qui vient 20 ans après celle obtenue par la génération de Seydou Keïta. Donc, je ne suis pas très, très, très sport, mais je pense déjà que si cette équipe-là, elle est bien entretenue, elle peut valablement contribuer au remplacement de l'équipe actuelle. Et avant de passer, je crois qu'il faut également remercier l'entraîneur Fanyeri Diarra. Parce que de mémoire de Malien, ça n'aurait pas marché. On aurait dit que c'est Fanyeri qui est nul. Et maintenant que ça a marché, j'entends rarement parler de lui. Mais moi, je voudrais lui dire chapeau. Et demander également aux autorités sportives de permettre à Fanyeri, n'est-ce pas, de se former. Parce que je sais qu'il n'a pas fait une très grande école d'entraîneur. Donc, qu'on lui permette de se former.
Malgré ce niveau.
Voilà, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à suivre ces jeunes-là qui nous ont émerveillés.
Ami Bessissé.
Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. L'entraîneur est toujours responsable d'une victoire ou bien d'une défaite. Il faut s'assumer.
Sans oublier le gardien.
Le gardien. Mais vous voyez, lorsque les Maliens se réveillent au fond de la nuit pour assister à un match de football, ça veut dire qu'ils en sont vraiment mordus. Et l'équipe, c'est une équipe vraiment qui est complète dans tous les sens, dans tous les comportements du jeu, dans la circulation, dans la technicité. Vraiment, c'est des gens qui ont joué avec le cœur. Et moi, le fait d'avoir été bâti ne me fait pas trop mal parce que c'est l'équipe victorieuse enfin qui nous a battu deux fois. Et la première fois c'était 2-0, la deuxième fois c'était 2-1. C'est qu'il y a eu une évolution. Mais je crois qu'il faut aussi que la fédération, qui connaît quelques difficultés et quelques tensions, puisse être vraiment assise dans son socle parce que le football malien, quoi qu'on dise, a des lendemains meilleurs et surtout ses juniors. Il faut vraiment que l'État les accompagne. Si d'ailleurs on pouvait mettre tout ce qu'on va mettre chez les juniors là, qu'on mette ça chez eux là, je crois qu'ils peuvent encore faire mieux. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé avec les juniors? C'est des gens qui se croient professionnels, c'est des gens qui se croient au-dessus de la mêlée, et quand ils viennent, la façon dont ils jouent dans leur club, ce n'est pas de cette façon qu'ils mouillent le maillot pour l'équipe nationale. Et c'est dommage, si tout le monde jouait comme Seydou Keïta, ce n'est pas pour l'argent qu'ils jouent. Mais vraiment, ils jouent pour les Mali. Mais d'autres, vraiment, c'est de la démonstration qu'ils viennent faire. Et la fédération, c'est de l'affairisme. Parce que les joueurs qui donnent de l'argent, ce sont ces joueurs qui sont retenus.
Donner de l'argent à qui?
On donne de l'argent à la fédération, aux responsables, pour qu'ils puissent être sélectionnés. Si c'est des secrets que tu n'as
pas. Vous avez les preuves?
Bien sûr. Ce que je dis, ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui sont très claires. C'est de l'affairisme. Beaucoup de joueurs font des affaires pour être sélectionnés. Et il va falloir que c'est la chaîne.
C'est des cadeaux qu'on amène.
Des cadeaux.
Des cadeaux mérités.
Allez. Alors, ces Aiglons ont terminé dans le carré d'as de la CAN des juniors. Et là, ils vont terminer troisième de la Coupe du Monde derrière le Brésil et la Serbie.
Mais moi, je suis très content, franchement, par la bien vraie que je ne suis pas trop amateur de football, mais quand c'est le Mali qui joue, je m'y intéresse. Maintenant, je reviens un tout peu ce que Yossi a dit, et puis un peu MBC a dit, c'est que c'est de donner l'opportunité à ces jeunes-là de continuer. Parce que je me suis renseigné, on me dit qu'ils sont bien, très bien. C'est une équipe qui est au top. On ne peut pas dire, voilà, un tel élément est bien, l'autre, non, ils sont tous bien. Donc, de faire tout pour qu'ils puissent continuer
ensemble,
vraiment former une équipe nationale pour capable à l'avenir et pour se faire créer les conditions qu'il faut et éventuellement
obtenir d'autres trophées.
D'autres trophées, parce qu'on en a besoin et que cette victoire puisse servir de levain pour les dirigeants au niveau.
Un autre niveau.
Un autre niveau, vraiment de revoir. Parce que. Amibé Cissé a tantôt parlé de la crise au sein de la fédération. C'est vraiment une crise, à mon avis, qui n'avait pas sa raison d'être. Parce que quand j'ai interrogé les confrères qui sont dans le domaine du sport, je me rends compte que c'est surtout pour des intérêts personnels. Non pas pour l'épanouissement, l'essor du football malien. Et là, c'est regrettable. Vraiment que cette victoire-là puisse servir d'inspiration pour eux, pour aller vraiment au-delà de ces querelles intestines, penser au Mali, au football malien. D'accord. Et surtout à l'avenir de ces jeunes-là.
Alors, on a parlé de cette question d'arbitrage. Est-ce que l'arbitrage défavorise les équipes africaines à un tel niveau comme la Coupe du Monde, Jakarta
aussi? D'ordinaire, chaque fois qu'on parle d'erreur d'arbitrage, moi, je me disais que les gens cherchent la petite bête. Mais très honnêtement, pour ce qui concerne l'élimination du Mali lors de leur deuxième match contre la Serbie, et l'arbitrage nous a beaucoup défavorisés. Et à ce niveau, je ne sais pas ce que les autres font. Je ne sais pas si c'est un lobby qu'il faut faire à l'avance. Je ne sais pas, comme l'a dit Ami B, si il faut rencontrer l'arbitre avant les matchs.
Le match.
Voilà, des choses de ce genre. Sinon, je crois que l'arbitrage nous a défavorisés.
Oui, mais c'est possible ce qu'il vient de dire. Dans un contexte où la FIFA, l'institution internationale qui s'occupe
est
de football,
par est des scandales.
Plongée jusque dans le tréfonds de la corruption. Moi, je crois que c'est des situations souvent qu'il faut imaginer. Mais il faut toujours être perplexe parce que l'arbitre, c'est un individu. Il faut prendre une décision à la seconde. Il n'a pas ce ralenti que nous avons devant l'écran pour pouvoir juger. C'est pourquoi on a envie de réformer pour amener l'arbitrage à cinq arbitres. Ça peut-être, ça peut changer mieux les choses dans l'avenir.
Un mot sur l'arbitrage, Lafia?
C'est pas tellement dans mes habitudes de m'en prendre aux arbitres. Parce que je me dis qu'un match, ça fait 90 minutes. Mais le match, personnellement, je ne l'ai pas suivi. Mais à la lumière des commentaires que j'ai eus, je pense bien que l'arbitrage, ça a péché.
Est-ce que les équipes africaines sont défavorisées à un tel niveau de compétition comme la Coupe du Monde?
Non, je ne pense pas à ce niveau que ça soit fait de façon typique.
Ciblé
par rapport aux équipes africaines. Ça m'étonnerait que ça soit le cas.
Alors, un mot peut-être sur les entraîneurs. Les entraîneurs locaux sont souvent mis de côté, mais quand ça ne va pas, on fait appel à eux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option, Lafia?
Je pense que ce n'est pas juste. Quand, par exemple, le cas Fafaniri, il est là aujourd'hui, c'est un bon résultat qui est là. Voilà, ces jeunes-là, quand ils continuent à arriver à un certain niveau, pof, on fait appel à un entraîneur blanc. Bon, je me dis, pourquoi? Pourquoi ne pas donner l'opportunité, comme Yossi l'a dit aujourd'hui, de trouver, par exemple, une bourse à Fafaniri pour qu'il aille se perfectionner et qu'il continue avec ces jeunes-là? Pourquoi ne pas donner la chance à ces jeunes-là d'être de l'équipe A de demain et qu'il soit dirigé par le même Fanyeri Diarra? Et là, du point de vue économique, ce qui va nous revenir moins cher par rapport à un entraîneur étranger, un blanc, quelque chose, en tout cas un entraîneur qui n'est pas malien,
expatrié.
Au-delà de l'aspect financier, il y a le fait qu'on va remettre en valeur notre sport à travers nos élites.
Comme d'autres l'ont fait, comme le Nigeria, l'Égypte.
À ce niveau, l'entraîneur local, il est d'autant plus utile, plus important. Mais le fait même, en Nouvelle-Zélande, Fanyeri parlait en langue nationale, bamanankan, à ces jeunes-là. Ce n'est pas négligeable. Et pour en venir de façon générale, Stéphane Keshi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs africains. C'est un local. Et il a l'un des meilleurs palmarès parmi les entraîneurs locaux.
Juste deux mots, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Juste pour dire bonsoir à tous ceux qui écoutent du côté de Tombouctou, c'est chez moi, c'est sur la radio Al-Farouk et la radio Djamana. Je leur dis bonsoir.
Merci pour le teasing. Alors, c'est donc la fin de cette émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. À la mise en onde, il y avait Mamadou Ouattara, régie vidéo Nouhoum Diré, réalisation Ousmane Diadié Touré. Nos invités, ils sont trois, Lafia Sinaba, journaliste indépendant, Amibé Sissé de la radio RF et Jakarija Youssi, journaliste indépendant également. Merci à vous pour nous avoir suivis. Nous vous disons bon week-end et bonsoir à lundi pour un autre débat.
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.